Bonjour tout le monde et bienvenue à la table du débat de midi installé dans un couloir de vent aujourd'hui puisqu'il va être question d'éoliennes. Et d'ici, je vous vois réagir tellement ce mot éolienne a transformé son côté poétique en sujet épidermique. Les éoliennes, c'est moche, ça fait du bruit, ça tue les oiseaux, ça abîme la terre et c'est un leurre en termes de production d'électricité, disent les uns. Pendant que les autres y voient un levier indispensable pour produire une énergie décarbonée, puisque notre consommation ne baisse pas. Le parc éolien va quasi doubler d'ici 2028 pour augmenter sa part dans le mix français, en plus du gaz, du charbon parfois, du solaire, de l'hydraulique et du nucléaire en embuscade dans ce débat. Électrisant avec des mobilisations d'habitants partout sur le territoire et des stars de la télé qui en ajoutent une couche, sans parler des récupérations politiques, mais le gouvernement l'affirme. Il développera, quoi qu'il arrive, ses grands mâts sur terre ou en mer. Guy de Maupassant mourait il y a pile 128 ans, le 6 juillet 1893, et écrivait dans un poème « Debout sur le coteau comme un monstre vivant, un immense moulin tournait ses bras au vent ». Et les éoliennes alors, c'est du vent ?
Camille Crenier, le débat de midi, sur France Inter.
Et à vous qui êtes de l'autre côté du poste, j'attends évidemment questions ou témoignages sur l'application France Inter par mail ou sur Twitter avec le mot-clé débat de midi. Et je vous présente en attendant Marion Richard, Bernadette Kars, Marc Jedliska et Grégoire Souchet. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Marion Richard, vous êtes l'une des responsables de l'association Énergie Partagée qui soutient les projets locaux et citoyens de production d'énergie renouvelable. Bernadette Kars, vous êtes vice-présidente de la Fédération Environnement Durable contre les éoliennes et vous-même riveraine d'éoliennes à Tigné, c'est pas très loin d'Angers. Marc Jedliska, vous habitez vous aussi à côté d'éoliennes, hein, c'est dans le Rhône, dans le Beaujolais vert. Vous êtes pour les éoliennes et vous êtes porte-parole de l'association Négawatt. Et Grégoire Souchet, vous êtes journaliste indépendant, auteur du livre « Les mirages de l'éolien » paru au Seuil avec reporter en mai 2018. Ça date de quand, tiens, les premières éoliennes en France, Grégoire Souchet ?
Ben, ça date du début des années 2000. Il y avait eu des expérimentations avant, dans les années 70-80, mais les grandes éoliennes, on va dire, c'est-à-dire voilà, de plus de 1,5 mégawatts de puissance, c'est le début des années 2000. En fait, c'est un programme qui a été lancé dans les années fin des années 90, et c'est EDF qui a été à la manœuvre de construire les toutes premières éoliennes.
Marc Jedliska, c'était...
La toute première éolienne de puissance installée en France, elle faisait 800 kilowatts et elle a démarré en 1959. Et c'est EDF non seulement qui...
Mais c'était où ? Parce que alors moi j'avais une autre information, moi j'ai 91 à Port-la-Nouvelle dans l'Aude.
C'est quasiment un secret d'État, c'était à Nogent-le-Roi, il y en avait deux en fait, à Nogent-le-Roi entre Chartres et Dreux. Et il y en avait une aussi sur le Cotentin, pas loin de Cherbourg. Et c'était EDF, le directeur de la recherche d'EDF au sortir de la guerre, il s'appelait Pierre Ayret. Et il était fanat d'éolien parce qu'il était breton, il était résistant aussi. Mmh. Il avait inventé une technique d'anémomètre et il avait développé. Et donc EDF a travaillé avec un bureau qui s'appelait Best Romani. Et en 1959, ils ont raccordé, alors c'était pas sur le réseau majeur, mais c'était sur le réseau SNCF, une éolienne de 800 kW qui a fonctionné pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'il y ait un problème avec des pales. Et en 63, il n'y avait plus d'argent, on a démonté les deux éoliennes, c'est parti à la ferraille, parce qu'entre-temps, le général de Gaulle avait décidé qu'il avait besoin de plutonium pour faire la bombe atomique et avait lancé le premier programme nucléaire, celui de Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux, etc.
Déjà...
La France avait plus de 15 ans d'avance sur l'industrie éolienne dans le monde et on a renoncé à la développer.
Et juste pour savoir, donc, d'où je sors moi l'information 1991 dans l'Aude à Port-la-Nouvelle.
Alors ça, c'est la première éolienne, c'était une éolienne danoise Vestas, raccordée par un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Germa, qui avait été fondateur de la Compagnie du Vent. C'est la première éolienne raccordée au réseau. Elle faisait, de mémoire, 700 kW, alors que l'éolienne d'EDF, c'est 1959, encore une fois.
Bernadette Kars.
Alors, la technique éolienne existe effectivement depuis très longtemps, mais vous aviez raison de souligner que l'éolien en France, l'éolien industriel, a vraiment pris son essor à partir des années 2000. Ça correspond à la date de mise en place du tarif de rachat. Depuis que c'est devenu une affaire d'argent, une affaire très rentable sans aucun risque, l'éolien s'est développé.
Alors, on va en parler, on va rentrer dans le débat, mais on va se laisser le temps.
Il y a eu un épisode précédent,
Marc Jelczyk. On va juste attendre, se laisser le temps quand même. Je voudrais quand même vous faire écouter un son qui date de 1979, donc ça date pas non plus d'hier. C'était le 15 juin sur TF1. Les éoliennes, on en parlait déjà. Écoutez ce journaliste avec aussi un garde forestier.
L'éolienne, qui fait partie du paysage familier de nos campagnes, est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Ce regain d'intérêt, ironie du sort, est étroitement lié à la crise pétrolière.
Ça, c'est une énergie, le vent. Alors, dans des vallées qui sont un peu cachées, tout ça, dans déjà devant, tellement fait de pylônes qui transportent l'électricité, eh bien, qu'on a déjà un peu détruit le site, hein, pour vraiment le mordu. Mais alors, faisons encore quelques pylônes de plus, si vous voulez. Et vous prenez le vent et vous le laissez passer. Le Mistral, vous le contrarierez pas. Il est plus fort que ce que peut être une rivière. Lui, vous arriverez difficilement à le dompter.
Le vent difficile à dompter. Marion Richard, les éoliennes, elles sont déployées dans quel but ?
Elles sont déployées dans le but de produire une énergie propre, une énergie durable, pour produire de l'électricité. Aux côtés d'autres énergies renouvelables, hein, le solaire, la méthanisation, la petite hydro dans des cours d'eau à faible enjeu. Voilà, donc l'éolien à la base, c'est une des solutions absolument incontournables pour lutter contre le changement climatique. Tous les travaux sérieux en la matière le prouvent.
Mais à la base, alors si on revient à la base, comme vous dites, dans les années 70, 80, 90, 2000, c'était aussi avec cet enjeu du changement climatique ?
C'est à la fois pour sortir du tout pétrole, du tout fossile, du tout fissile, et puis pour développer des énergies qui ne vont pas épuiser les ressources de la Terre, qui sont renouvelables, qui sont propres et qui sont répartis sur tout le territoire, qui sont une vraie richesse pour les territoires. Et c'est d'autant plus le cas quand ces projets sont maîtrisés par les citoyens, par les collectivités, par les acteurs locaux, et qu'ils peuvent maîtriser à la fois les décisions sur ces projets et les retombées économiques que ces projets génèrent.
Une question de Mamus, déjà sur Twitter, qui nous dit qu'il est prof de SVT. Il est désespéré parce qu'il doit expliquer aux élèves comment ça fonctionne une éolienne. Et visiblement, c'est pas très facile, Marc Jelczyk. Ça fonctionne comment une éolienne?
Ça fonctionne avec la force du vent. En fait, ça utilise la force du vent, comme chacun sait, comme les moulins avant le faisaient. Mais les éoliennes modernes sont dérivées aussi de l'aviation, en fait, hein, ce qui fait tenir un avion en l'air. C'est des ailes, mais s'il n'avance pas, il tombe. Ça, on est d'accord. Donc, il faut qu'il avance. Et en fait, ça fond la lame d'air. Et la lame d'air est coupée et crée une dépression qui permet à l'avion de tenir en l'air. Les éoliennes modernes à trois pales et axe horizontal, en fait, utilisent cette technique qui permet de récupérer plus d'énergie qu'une éolienne à axe vertical.
Mais donc, le vent, pardon, si on voit l'éolienne qui tourne comme ça avec ses pales, le vent rend. Et après, comment il se transforme en électricité ?
Alors, il se transforme parce que ça fait tourner un axe de rotation. Derrière cet axe de rotation, il y a pour commencer une boîte de vitesse, en fait, ou un multiplicateur ou un réducteur. Et puis derrière, il y a un alternateur. Un alternateur, c'est le même qu'il y a dans votre voiture, sauf qu'il est un peu plus gros. C'est le même qu'il y a sur notre vélo quand on pédale et que c'est un peu plus dur pour avoir la lumière. Enfin, dans l'ancien temps, maintenant il y a des LED. En tout cas, voilà, c'est une des techniques tout à fait éprouvées. C'est la mécanique et la production électrique. Et du reste, les centrales nucléaires ou charbon ou fioul utilisent aussi des alternateurs. Donc, ce sont des technologies d'ailleurs qui sont en grande partie fabriquées en France. On a d'excellents champions des technologies qui fabriquent des alternateurs en France. Et c'est quelque chose d'assez simple, en fait.
Grégoire Souchet, il y a combien d'éoliennes aujourd'hui en France ?
Alors, ça dépend de si on compte le nombre d'éoliennes installées, le nombre d'éoliennes en projet.
Installées, on est à
plus de 8000 mâts, si je ne me trompe pas, selon...
Oui, oui, c'est ça. Voilà. Majoritairement sur Terre ?
Uniquement. Sauf une, mais toutes sur Terre en France, parce que la filière s'est développée par l'éolien terrestre en France.
Et l'offshore, pardon, du coup, je posais la question, parce que les éoliennes en mer sont en train d'arriver. Hein.
Voilà, il y a deux types d'éoliens en mer. Il y a l'éolien posé, c'est-à-dire avec on l'accroche carrément, on la rime au fond marin, et il y a éolien flottant. Actuellement, l'éolien offshore qui se développe en premier, c'est l'éolien posé au large des côtes de Normandie et des côtes bretonnes. Et puis on a des projets d'éolien flottant aussi dans ces zones-là, au large de Saint-Nazaire, et puis en Méditerranée, avec plusieurs projets dans le golfe du Lion.
Bernadette Kers, il y a combien d'éoliennes à côté de chez vous, là, près d'Angers ?
À côté de chez moi, juste 4.
Oui.
4 éoliennes.
À combien de distance ?
4 machines à 850 mètres de ma maison.
Vous les voyez de votre maison?
Ah, c'est la première chose que je vois en ouvrant mes volets, et c'est la dernière chose que je vois en fermant mes volets. Je les vois de la base au sommet, toutes les quatre, et je profite de leur bruit.
Depuis combien de temps?
Depuis bientôt 4 ans.
Qu'est-ce qui vous dérange alors? Vous me parlez du bruit. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces éoliennes à côté de chez vous?
Ce qui me dérange, c'est que je vois que nous avons perdu notre environnement. Notre environnement est pollué. Ça s'est fait sans aucune concertation. Ça s'est fait avec beaucoup de violence, comme souvent nous l'entendons pour d'autres projets éoliens. Et notre paysage est vraiment abîmé. Nous avons des nuisances sonores et visuelles. Tout cela au profit d'un promoteur privé qui annonce dans ses documents lui-même pour 4 éoliennes un chiffre d'affaires de 105 000 euros par mois. Et vraiment, ça me dérange de voir que nous sommes victimes et financiers de cette affaire-là.
Victime comment? Alors bon, le paysage, on entend, il y a énormément d'arguments pour dire les éoliennes gâchent le paysage, détruisent le paysage. Après, il y a un moment, faut produire de l'électricité, c'est ce que disent aussi les gens qui vont les défendre plus. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous dites vous êtes une victime, c'est un mot fort quand même.
Non, ce n'est pas un mot fort, ça a été d'ailleurs reconnu par le tribunal administratif de Nantes qui vient d'ordonner la baisse de mon impôt foncier, c'est-à-dire le déclassement fiscal de ma maison. En reconnaissant les nuisances et à classer les éoliennes de Tigné en inconvénients notoires d'après le code des impôts. Donc non, ces nuisances sont reconnues par l'administration puisqu'elles provoquent, et c'est ce dont a tenu compte le code des impôts, la baisse de la valeur locative de ma maison, donc la baisse de la valeur de mon habitation.
Voilà,
et je ne suis pas la seule.
Mais donc c'est le problème principal pour vous, c'est que finalement vous avez perdu en termes de foncier?
Alors non. L'expression, la baisse de la valeur de l'immobilier, c'est quelque chose qui est effectivement gênant pour tout le monde, totalement amoral, parce que c'est au profit d'un promoteur privé. On n'est pas ici, avec l'éolien, dans une industrie d'utilité publique. On est ici dans une industrie totalement privatisée.
Alors, on va laisser répondre Marion Richard de l'association Énergie Partagée à ça.
Oui, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites, madame, mais peut-être sur la question d'une part du paysage et sur la question de... est-ce que ces projets sont imposés ou de quelle manière ils sont imposés
sur la concertation.
La première chose, c'est sur le paysage. Il ne faut pas nier que les éoliennes modifient le paysage. C'est bien sûr évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le paysage, c'est d'une part quelque chose qui évolue, qui n'a pas cessé d'évoluer ces dernières années et depuis très longtemps, et qui a été modifié par les mains des hommes et des femmes. Et l'éolien vient modifier ce paysage. Ce qu'il est important de faire, c'est d'associer les territoires et les citoyens très en amont des projets, de les informer pour ne pas que du jour au lendemain, ils découvrent qu'il y aura un projet éolien sur le territoire. La deuxième chose, c'est que la question, ce n'est pas tant l'éolien, la technique en elle-même, dont on sait qu'elle est sûre, qu'elle est mature, que les impacts sont maîtrisés.
Ça, on va y revenir. Là, vous affirmez des choses, je vais vous poser des questions.
Que la manière dont ces projets sont faits, il y a malheureusement eu, il y a encore quelques projets qui ne sont pas concertés, qui sont où le territoire est faiblement informé. Il faut arrêter ces projets-là. Néanmoins, il faut dire que ça reste minoritaire. Il y a encore eu récemment une tribune de 150 élus locaux qui montrent qu'ils sont fiers de leurs éoliennes et fiers de leur territoire.
Mais alors, pardon, pour vous contredire, Marion Richard, pardon, il y a aussi des tribunes il y a un mois, par exemple, dans le journal du dimanche de 54 élus en Dordogne qui est titré « Concertation, c'est du vent ».
Donc, tout à fait. Mais encore une fois, il y a encore malheureusement certaines pratiques qui ne fonctionnent pas. Et ce qu'il faut, c'est arrêter ce type de pratiques-là, qui encore une fois reste minoritaire. Et ce qu'il faut également, c'est renforcer les modèles de projets où les citoyens et les territoires sont partie prenante dès le départ, impliqués dès le départ dans les projets.
Marguerite Visca, vous habitez à côté des éoliennes. Elles sont à combien de distance de chez vous ?
À 600 mètres de ma maison.
Et juste un rappel, que dit la loi par rapport à la distance ?
C'est la limite, c'est 500 mètres. D'accord. C'est une limite de distance. En fait, la logique, ce serait que c'est une limite d'émergence sonore, comme ça se fait dans d'autres pays. En Allemagne, il n'y a pas de limite en mètres, c'est en émergence sonore. Donc, c'est des calculs qui permettent de garantir qu'il n'y aura pas plus de bruit, etc. Mais non, elles sont à 600 mètres. Alors, elles sont en service seulement depuis quelques mois.
Ça vous pose problème ?
Pas du tout. Moi, j'adore ça. Ça fait 35 ans que je les attends. j'attendais. Je sais que dans cet endroit où j'ai choisi d'habiter, ça fait dans cet endroit où j'ai choisi d'habiter, qui est sur une crête un petit peu montagneuse, donc les montagnes du Beaujolais, autour de dans les 800 mètres d'altitude. Il y a longtemps que j'y habite et je sais que c'est un endroit qui est vanté, c'est la ligne de partage des eaux, c'est un endroit qui où j'attendais les éoliennes. Alors j'ai eu une expérience avec une petite éolienne dans mon jardin, mais ça marche pas parce que c'est pas assez haut, il y a pas assez de vent, etc. Et donc j'attendais depuis très longtemps. J'ai suivi de très près justement le processus et la concertation était très bien faite. Alors pour être très clair, c'est pas un projet citoyen, c'est un projet qui a été piloté, c'est EDF Renouvelable, donc la filiale d'EDF qui elle gagne de l'argent, contrairement au nucléaire qui en perd beaucoup à d'autres filiales. Et donc la concertation s'est faite dans de très bonnes conditions. Il y a eu des concertations préalables auprès des habitants, il y a eu enquête publique, etc. Il y a même eu modification du positionnement. Il y a eu deux permis de construire parce qu'il y a eu des modifications du positionnement des machines pour tenir compte de la vie des gens, évidemment des oiseaux, de la faune, de la flore, etc. Et le résultat, c'est que c'est un projet qui n'a pas connu de recours, alors que la Fédération Énergie Durable avait dit qu'il n'y aurait pas, au vent de colère, avait dit qu'il n'y aurait pas un seul projet en France sans recours. Celui-là a été sans recours.
Et ces éoliennes, est-ce qu'elles alimentent votre propre électricité?
Bien sûr que non. Elles peuvent pas. C'est des éoliennes qui font 3 mégawatts de puissance, donc elles sont raccordées à 12 km en traversant une petite ville à un poste source, et elles alimentent le réseau général. Ce type de machine-là n'est pas fait pour alimenter les individus, les particuliers ou même les entreprises. Alors, c'est pour alimenter le réseau général.
Sur Twitter, on a pas mal de messages de personnes qui relaient des exemples de projets situés par exemple dans des zones Natura 2000 en Nouvelle-Aquitaine, notamment à Oléron, ou dans le couloir de migration d'oiseaux protégés au large de Dunkerque. Grégoire Souchet, il y a plusieurs couches, on a l'impression, de critiques qui viennent s'ajouter. Il y a l'environnement, il y a le foncier dont parlait Bernadette Kars, il y a évidemment la défiguration du paysage dont elle parlait aussi. Tout se mélange en fait dans la contestation.
En fait, pour moi, je me suis intéressé au sujet de l'éolien en 2017 parce que justement, dans le monde de l'écologie avec Reporter, on avait des pro-éoliens qui nous disaient qu'on était trop anti et des anti qui nous disaient qu'on était trop pro. Et on voulait pas non plus juste dire non, au milieu. On voulait comprendre ce sujet. Et en fait, pour moi, dans l'éolien, on parle de la France, en fait. On parle de l'état de ce pays. C'était un peu avant les Gilets jaunes, mais on retrouvait déjà, sur les contestations anti-éoliennes, une énorme agrégation de contestations. Dans les anti-éoliens, il y a des écolos, il y a des anarchistes, il y a des militants pro-nucléaires, il y a des ingénieurs, il y a des naturalistes, il y a des gens qui s'intéressent à leur foncier, il y a des gens d'extrême droite. Voilà, et en fait, c'est ces mobilisations sociales qui, pour moi, en fait, ont quelque chose à voir avec les mobilisations contre les grands projets inutiles et imposés, ceux qui sont extrêmement destructeurs pour la planète, Aéroport Notre-Dame-des-Landes, ou d'autres projets comme Arroisbon, Center Park, et choses comme ça. En fait, on retrouve une agrégation de forces. Et en fait, selon le territoire, eh ben, ça va avoir plus ou moins une couleur différente. Sur le plateau des Mille Vaches, ou dans la Creuse, on a une coloration peut-être plus libertaire. Alors que dans le Nord, peut-être une coloration qui est plus sur les questions de proximité, patrimoine, paysage. Mais ça tient aussi à la sociologie électorale des territoires.
Et on a un message de Benoît qui nous dit « Pourquoi toujours implanter des éoliennes dans des sites préservés où les vaches n'en ont pas besoin, au lieu d'installer des éoliennes dans des environnements urbains où le besoin est plus important pour la population ?» On donnera un élément de réponse dans un instant. Je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à continuer à nous envoyer vos messages via l'application France Inter, sur les mails aussi, les réseaux sociaux. Les éoliennes au cœur de ce débat de midi, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparée par Colin Gruel avec Sophie Perroiguet et Antoine Cruchon à la technique.
Le parfum de cette forêt de pins, le sable qui coulait entre tes mains, un sorbet de roseille au sel marin, le lever du soleil. Souvenirs.
C'était les jolies choses sur France Inter.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Installer une éolienne, vous protégez la planète. Oui, il y a une nécessité absolue de déployer l'éolien en France face à l'urgence climatique. Notre pays a besoin de l'éolien. Une éolienne installée, c'est moins d'énergie fossile utilisée, c'est aussi simple que cela. Oui, les éoliennes sont au cœur de la transition énergétique de la France. Bref, pour le dire simplement, l'éolien est un moyen économiquement viable et compétitif qui nous permet de répondre à l'urgence climatique.
Et vous aurez reconnu la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, c'était le 28 mai dernier, au sujet donc des éoliennes dont on parle aujourd'hui sur France Inter avec mes invités Marion Richard, Marc Jedliska, Grégoire Souchet et Bernadette Kars. Bernadette Kars, la consommation d'énergie ne baisse pas en France ni ailleurs dans le monde. Donc Barbara Pompili le dit aussi, aucun moyen de production d'énergie ne présente aucun impact. On a un message de Jean qui nous dit, pour ceux qui sont contre les éoliennes et contre le nucléaire au passage, que faire pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sans passer par l'éolien? Qu'est-ce que vous répondez?
Alors, j'ai bien entendu Madame Pompili qui a juste oublié qu'elle avait plein de Français dans son pays et que les Français sont très majoritairement opposés à l'implantation d'éoliennes près de chez eux, et c'est pour ça
elle cite un sondage, 82%
c'est faux,
des Français
c'est
faux.
Et elle cite faux. Et le ministère de l'écologie dans le rapport Le Cornu a bien expliqué que le taux de recours était de 70% contre les projets éoliens.
Répondez juste
à la question que je vous ai posée. Oui. Comment on fait aujourd'hui? On a besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a besoin d'énergie puisque la consommation ne baisse pas. Comment on fait si on n'a pas d'éolien, si on n'a pas de solaire, si on n'a pas d'énergie renouvelable?
Alors effectivement, c'est très important de lutter contre le réchauffement climatique. Et nous sommes à la Fed complètement en faveur de la transition écologique. Et c'est pour ça que nous sommes 1300 associations. De tous les partis politiques, de toutes les classes sociales, nous nous battons et nous avons effectivement beaucoup de ruraux parmi nos adhérents, mais nous n'avons pas que des ruraux.
Et qu'est-ce que vous proposez alors pour si vous voulez pas d'éolien, qu'est-ce que vous voulez?
Ce que nous proposons, c'est là vous me prenez.
C'est une question évidente. Vous voulez pas d'éolien?
C'est un peu la question centrale, si je peux me permettre.
Oui, c'est voilà. Alors voilà.
Vous avez pas de
réponse à ça ? Le problème éolien, il est pas seulement lié à l'environnement, il est aussi lié aux enjeux socio-économiques. Nous savons qu'en France, l'urgence, elle est
quoi?
Vous me laissez deux minutes. Nous savons qu'en France, l'urgence pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport et le chauffage. Nous savons qu'en France, et l'Assemblée nationale dans son dernier rapport l'a bien dit, nous sommes déjà un pays complètement décarboné ou presque 100% décarboné en matière d'électricité. Donc qu'est-ce qui se passe? La maison brûle et nous arrosons le garage. Nous mettons l'argent là où il ne faut pas. Alors nous, ce que nous proposons, c'est de faire baisser et voire supprimer toutes les subventions à l'éolien. C'est ce que demande la Fed. Et que tout cet argent, nous parlons quand même depuis 2000, d'après la CRE, la Commission de Régulation de l'Électricité, de 90 milliards d'euros. Eh bien cet argent, réaffectons-le à ce qui va servir à la transition écologique.
Mais Bernadette, vous nous dites pas ce que vous proposez comme alternative.
Alors déjà,
à l'éolien.
Ces 90 milliards d'euros,
qui sont
au lieu de les mettre dans les poches de promoteurs privés, nous suggérons de les mettre par exemple dans tout ce qui est économie d'énergie. électrification des transports, mais certainement pas les jeter. On a beaucoup d'argent qu'on jette par la fenêtre.
L'électricité dont vous parlez, comment, s'il n'y a pas l'éolien, Marc Jedliska, comment est-ce qu'on peut produire l'électricité nécessaire, sachant qu'on
est déjà exportateur, excusez-moi, d'électricité, on en produit déjà trop. Et Négawatt est dans ce paradoxe, c'est qu'à la fois on nous demande de réduire notre consommation d'électricité, mais vous êtes pour une production sans fin avec l'éolien. C'est un paradoxe.
Ah oui, alors c'est pas du tout un paradoxe, c'est très clair. La production d'électricité sans éolien, à l'échelle mondiale, on s'en sort pas. Il y a besoin d'éolien de toute façon. Et en France, il tout, parce que le nucléaire n'est pas une énergie durable. Alors, on l'a aujourd'hui, elle est décarbonée, d'accord. D'abord, il n'y a pas que la question du carbone, hein, sur Terre. L'ONU a défini 17 objectifs de développement durable. Le changement climatique, la lutte contre le changement climatique est un de ceux-là. Évidemment, il est prioritaire, c'est un des premiers, un des plus importants. Mais ce n'est pas le seul. Il y a tous les autres objectifs. Les objectifs de la question des ressources, la question de la qualité de l'air, la question de la qualité de l'eau, la question de la biodiversité, etc. Tous les sujets sociaux, les sujets d'égalité entre le nord et le sud, les sujets hommes-femmes, etc. Donc, replaçons le débat là-dedans. Et quand on le replace là-dedans, on se rend compte que l'éolien, comme les renouvelables, comme le photovoltaïque ou d'autres, est totalement incontournable. Sinon, on a du fossile. Je suppose qu'à la Fed, ils sont tous contre les SUV. Les gens qui ont des châteaux à la campagne, ils se battent contre les SUV. Je suppose, j'espère pour eux, les quads qui nous embêtent dans les campagnes.
Je ne peux pas laisser comme ça caricaturer la Fed.
Vous avez caricaturé Négawatt,
la Fédération Environnement Durable. Alors, on va laisser parler Marion Richard. Je vous donne juste un message d'Elisabeth qui habite à Ouessant. Pourquoi l'État français, demande-t-elle, favorise-t-il la fuite en avant et toujours plus de consommation, plus d'éoliennes, alors que l'on sait que la Terre est un monde fini dont nous avons déjà dépassé les limites? Marion Richard.
Je pense que Marc Jedliska vient d'y répondre. Je trouverais intéressant de noter quand on a la représentante de la Fed qui nous dit qu'il faut absolument lutter contre le changement climatique, que son président, Jean-Louis Butré, a été signataire en 2019 d'une tribune qui dit qu'il n'y a pas d'urgence climatique et pas de crise climatique. À l'inverse, nous avons partout...
Au-delà de ça, pardon, partout, on va juste dans préciser les territoires, qu'il y a des opposants partout en France aussi.
Il y a aussi beaucoup de territoires et beaucoup de citoyens qui veulent, eux, se réapproprier la transition énergétique, qui veulent décider, qui ne veulent plus que, comme trop longtemps, les décisions sur l'énergie soient prises de manière très centralisée, et qui veulent enfin ne plus subir et ne plus être uniquement faire partie du problème, mais bien faire partie de la solution, et qui prennent leur part de responsabilité, puisqu'encore une fois, de l'énergie, il faut absolument réduire nos consommations d'énergie, mais nous allons en consommer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se dit, c'est pas grave, la production, les centrales à gaz, les centrales à charbon, les centrales nucléaires, ce sera loin de chez nous. Non, c'est pour ça qu'on a des territoires, on a des citoyens qui se disent, nous, on veut faire partie de la solution.
Mais donc, il y a des citoyens, Marion Richard.
On développe des projets éoliens, il y a des citoyens
qui sont d'accord pour avoir des éoliennes à côté de chez eux.
Qui sont plus que d'accord, qui passent leur soir et les week-ends, et qui investissent de l'argent, mais qui prennent du temps pour faire des réunions entre eux, pour s'intéresser au projet, pour aller chercher des collectivités, pour monter un projet éolien.
Parce que Grégoire Souchet, derrière tout ça, vous qui avez écrit un livre donc sur l'éolien, Les Mirages de l'éolien, je rappelle, paru en 2018 aux éditions du Seuil. Derrière tout ça, on a l'impression qu'il y a aussi ce discours sur certains opposants qui disent oui, il faut des énergies renouvelables, oui, il faut baisser les gaz à effet de serre, oui, peut-être qu'il faut de l'éolien, mais pas à côté de chez moi. C'est un petit peu ça qu'il y a derrière, hein.
J'aime pas caricaturer le NIMBY, on appelle ça not in my backyard, parce qu'en fait, on pourrait dire que toutes les luttes écolo ont commencé par du NIMBY. Pour moi, il y a quelque chose dans le mouvement éolien qui, en fait, parle de, je vous le disais, du pays. Et en fait, on parle d'un pays qui s'est enfermé avec un verrou nucléaire, parce que pour moi, c'est un verrou, qui est depuis les années 60. Au détour des années 2000, on a voulu casser ce verrou nucléaire. La manière dont on l'a cassé, c'est en utilisant le recours à une privatisation du secteur de l'énergie au niveau européen. Ça a été un des problèmes de l'écologie politique en France, c'est qu'on est passé par ce biais-là. Sauf que du coup, au lieu d'aller vers effectivement un développement citoyen concerté massif, malheureusement ça reste portion congrue aujourd'hui. Il y a des endroits où ça se passe bien, ça c'est vrai. Mais du coup, la majorité, c'est des promoteurs privés qui viennent avec des promesses et honnêtement pas toujours très claires. Quand on parle d'éoliennes qui dépassent pas du sapin à côté de chez soi, on prend les gens un peu pour des idiots parfois. Et il y a eu un précédent avec le début de l'éolien où il y a eu, on va dire, quelque chose qui a été mal régulé et sur lequel on n'est pas revenu. Et donc, du coup, aujourd'hui, chaque nouveau projet, même les plus citoyens, même ceux qui font vraiment les efforts de bien se penser, et ils ont cette empreinte-là du passé. et des ces éoliennes du Lévezou, de la Montagne Noire, dans d'autres endroits, qui marquent encore ce truc. Mais regardez comment ça s'est passé chez moi. Qui me dit que ça va pas se passer encore
alors,
pareil pour moi aussi ?
Grégoire Souchet, vous parlez des promoteurs. C'est un argument qui est utilisé aussi par beaucoup d'opposants aux éoliennes. Marjane Disca, des gens qui disent, voilà, c'est les promoteurs qui s'en mettent plein les poches pendant qu'en gros, notre paysage est gâché, que ça tue les oiseaux et que ça abîme nos sols. Le ministère de la Transition écologique a fait un vrai faux sur l'éolien terrestre. Je précise sur le terrestre. Il y a une vingtaine de pages. Hein, c'est un petit peu long à lire. Et il parle notamment de ces affirmations, par exemple, l'éolien est extrêmement rentable pour les exploitants, tout ça avec de l'argent public, le ministère répond faux. Je cite, les dispositifs de soutien sont dimensionnés de manière à garantir une rentabilité suffisante et raisonnable. Est-ce que tout cela est vrai ?
Oui, c'est vrai, parce que c'est dans la loi européenne. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur l'historique, qui a laissé une empreinte négative. Mais aujourd'hui, les conditions pour développer un projet éolien sont les plus rigoureuses du monde entier pour tout ce qui est de la concertation pour les habitants, la nature, l'impact paysager, etc. À tel point que d'ailleurs, les projets en France prennent quatre fois plus de temps que dans d'autres pays.
Voilà. On situe comment la France aujourd'hui par rapport au monde et à l'Europe?
D'abord, on est très en retard sur nos objectifs. En Europe, on a un gisement éolien qui est très important, aussi bien sur terre qu'en mer, et on est très en retard sur nos objectifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation est très lourde. C'est 10 ans de développement pour un projet éolien. En Allemagne, c'est 3 à 4 ans. Mais ça, c'est une bonne chose. Et ça doit continuer. Et donc, ça veut dire, aujourd'hui, s'il y a des projets qui sont mal faits aujourd'hui, c'est que l'État n'a pas fait son travail. Parce que c'est le préfet de région qui donne le permis de construire. Et je veux dire que les services instructeurs des administrations côté préfecture de région ou autorité environnementale, etc., sont extrêmement rigoureux. Donc, effectivement, c'est un mauvais souvenir, ces choses-là. Et j'ai été à l'époque un des premiers à le dire, qu'il y avait des projets massifs. Il y a des projets qui ont été construits sans permis de construire et qui sont aujourd'hui encore existants.
Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des messages sur les réseaux sociaux avec des projets qui sont dans des zones protégées, etc.
Ça n'existe
c'est
plus.
Actuel, ça.
La notion de protection des zones protégées, il y a des choses qui sont vraiment protégées d'un point de vue réglementaire. Et puis, il y a les zones Natura 2000. Ça, c'est encore une autre histoire où la France n'a pas vraiment très bien fait son travail quand l'Europe a dit, dites-moi où est-ce qu'il y a des zones naturelles à protéger.
Mais donc, ça veut dire qu'il va y avoir des éoliennes dans des zones protégées.
Alors, qui n'ont pas un niveau de protection réglementaire, oui. Qui sont dans une nomenclature qui s'appelle Natura 2000 et qui ne donne pas, d'un point de vue réglementaire, de protection au sens strict du terme.
Une question de Marie-Claude qui nous demande combien de tonnes de béton et de métal pour construire les éoliennes et quelle est leur durée de vie. Comment les recycle-t-on, Bernadette Kars ?
Alors, c'est une piscine olympique de béton que l'on met dans les sols en termes de dimension, en termes de
c'est
poids.
C'est l'équivalent d'un immeuble, des fondations d'un immeuble de 3 ou 4 étages avec 4 appartements pour une éolienne. Voilà,
et maintenant, ce que l'on va rajouter, c'est que ce sanctuaire qui était les fonds marins, on va aussi les bétonner pour mettre des machines dans la mer. Mais ce que je voulais,
revenir sur le défaut de démocratie. Sur la pêche, parce que je voudrais faire un petit crochet par ce que vous venez de dire sur les pêcheurs. Il y a eu pas mal de manifestations avec le projet au large de Saint-Brieuc pour 2023. Je vais vous faire écouter justement un petit extrait d'un reportage.
Pour les petits pêcheurs, l'avènement de l'offshore est vu d'un très bon œil, car les structures de ces étranges moulins seront favorables aux poissons pour l'habitat et la reproduction.
Pour nous, c'est-à-dire que sachant que la ressource a diminué énormément ces dernières années, ça permettrait de réapprovisionner les stocks de poissons.
Alors, ça c'était dans les années 90 dans l'Aude, vous l'aurez compris, un pêcheur qui disait justement que ça va pouvoir permettre aux poissons de revenir parce que justement les piliers des éoliennes peuvent servir ensuite d'écosystème reconstruit. Et maintenant, je vais vous faire écouter donc la manifestation à Saint-Brieuc il y a quelques semaines pour ce projet donc en 2023.
Les marins pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc ont encerclé ce gigantesque navire chantier qui a entamé ici, il y a quelques jours, les travaux du futur parc éolien.
Ce qui pose problème, c'est qu'il est en train de saccager le fond et que toutes les espèces qui sont aux alentours, ça va effrayer toutes les espèces et nous, on va plus rien gagner ici. On va plus rien gagner, ça va être de la misère complète.
Alors Grégoire Souchet, pour ou contre, quand on est pêcheur, c'est compliqué de s'y retrouver là aussi ?
Oui, alors c'est aussi que parce qu'on parle pas de la même pêche déjà. Hein, on parle de la coquille Saint-Jacques, d'un baie de Saint-Brieuc, c'est pas tout à fait ce qu'on pêche en Méditerranée. Je suis assez gêné quand on met, mais on pour ou contre, parce qu'en fait, on resitue le débat sur le focus éolien. Mais la question, c'est quel modèle énergétique on met dans notre pays actuellement. Le modèle, c'est qu'on n'arrive pas à diminuer nos consommations, et ça, c'est un vrai problème prioritaire, je pense. Que les mesures, même très volontaristes, même historiques, dirait le gouvernement, sont très 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 loin des besoins et des trajectoires, et que du coup, En attendant, on développe les capacités de production d'énergie et des productions électriques. La transition énergétique, c'est une transition par l'électricité. Mais du coup, tant qu'en fait, on ne diminue pas les consommations, eh bien, on peut bien comprendre que sur le terrain, les gens disent « Mais attendez, vous faites ça pourquoi en fait ? À quoi ça sert ? C'est pour les nouvelles consommations, donc les voitures électriques, donc les... » et donc, il y a une déconnexion entre le moyen qu'on utilise là et le besoin réel qui est effectivement un besoin de remplacer les productions carbonées et puis remplacer les centrales nucléaires. Sachant qu'actuellement, on a quand même de quoi, avec tous les éoliennes qui existent actuellement, de quoi remplacer une bonne dizaine de centrales
en France. Donc c'est le nucléaire en fait qui est derrière ce débat sur les éoliennes, c'est les centrales nucléaires à la place des éoliennes, c'est ça Bernadette Kars ?
Si vous comparez l'éolien à du nucléaire, c'est comme comparer un optimiste ou
non,
un 80
à un
porte-avions.
Non, je parle ça en tant que producteur d'énergie, c'est-à-dire par exemple les ONG sont toutes pour les éoliennes parce que contre le nucléaire. Est-ce que du coup les gens qui sont contre les éoliennes sont pour le nucléaire ?
Là, on mélange deux choses. On mélange la transition énergétique et la transition écologique. Et il a été clairement dit par l'Assemblée nationale, à la suite de cette commission d'enquête, à la suite de centaines d'heures d'écoute et d'auditions, que l'éolien ne sert pas la transition écologique, mais sert uniquement la transition énergétique.
Et elles vont pas ensemble,
selon vous ? La transition énergétique, c'est la sortie du nucléaire, c'est une décision politique.
Et du charbon.
Et des fossiles.
C'est une décision politique. La transition écologique doit être financée en particulier dans les domaines des transports et du chauffage. Et cela, on ne le fait pas. Mais je voudrais revenir sur le défaut de démocratie dans l'éolien, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et à la Fed, nous réunissons des gens qui justement se plaignent de ça sur le terrain.
Là, le manque de concertation.
C'est-à-dire qu'on vous concerte, on vous consulte, mais si vous ne donnez pas la bonne réponse, eh ben tant pis pour vous. Je prendrai l'exemple de Bain de Bretagne. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a autorisé la construction d'éoliennes à Noé-la-Blanche, malgré l'avis défavorable du commissaire enquêteur et de tous les élus. En fait, ce qui se passe dans l'éolien, c'est que les préfets ils sont coincés entre deux. Vous avez les opposants qui, si jamais ils accordent le permis, vont aller porter ce permis devant la cour d'appel. Et si jamais il avait l'outrecuidance de refuser le permis, il a 100% de taux de recours de la part des promoteurs.
Mais ça, c'est le problème qui se pose pour la quasi-totalité des projets industriels.
Ah non, l'éolien a le taux de recours le plus élevé de toute l'industrie.
Oui, plus élevé, certes, mais je veux dire, il y a énormément de contestations d'énormes projets industriels un peu partout en France. Et je veux dire, le nucléaire, quand il est arrivé, c'était 4 hommes autour d'une table, dans des bureaux. Et donc, la concertation, il n'y en avait pas du tout. Et il y a eu des luttes, il y a eu des luttes violentes, il y a eu des luttes en Bretagne, il y a eu Vital Michalon, hein, qui était un jeune homme qui était tué sur la manifestation.
J'étais présent à cette manifestation.
Donc, c'est pas le problème d'aujourd'hui,
si, c'est l'histoire, parce qu'en fait, on est dans une histoire de l'énergie qui est une histoire de lutte et de lutte violente, et on ne sait pas, en France, faire de l'énergie avec la population et les citoyens. D'où la difficulté pour l'énergie citoyenne comme énergie partagée.
Grégoire Souchet, est-ce que la question, c'est pas tout simplement parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, personne ne veut ces moyens de produire de l'énergie à côté de chez soi, tout simplement.
Parce que la réglementation est très dure.
Je suis d'accord avec Grégoire, c'est qu'il faut donner du sens à ces objets-là. Et le sens, on l'a en fait potentiellement. Puisque là, il y a une loi qui a été votée en France en 2015 qui dit que la France va diminuer de moitié sa consommation d'énergie globalement. Et pas qu'électricité, la totalité de sa consommation d'énergie finale. Ça vient de négawatts. Négawatts, c'est nous qui avons inventé le triptyque sobriété, efficacité et renouvelable. Et c'est bien dans ce sens-là. Donc la sobriété, c'est les comportements, c'est la compréhension par chacun que l'énergie, on n'en a pas besoin en tant que telle. Ce qu'on a besoin, c'est de services énergétiques. On a besoin de se déplacer, on a besoin de se nourrir, on a besoin de s'éclairer. Et pour ça, on peut consommer le moins possible d'énergie.
Marge Liska, est-ce que vous pourriez répondre à la question de Marie-Claude à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure ? Quelle est la durée de vie d'une éolienne et comment est-ce qu'on les recycle ?
Alors, aujourd'hui, la durée de vie contractuelle pour vendre l'électricité, c'est 15 ans parce que c'est des contrats avec EDF. En fait, c'est des machines qui vont durer 30 à 35 ans et qui sont recyclables à 97%. Il restait un problème encore récemment, c'est celui des pales. Le reste, c'est de l'acier.
Les pales ne sont pas recyclables.
Si, elles le deviennent maintenant. Elles ne l'étaient pas encore récemment. Elles le deviennent. C'est Vestas qui est un fabricant danois.
Parce qu'il y a des cimetières de pales. On entend parler de cimetières de pales en Allemagne ou aux États-Unis.
C'est la même matière première que les coques de bateaux de plaisance qui pourrissent dans tous les ports de France.
Que l'on ne sait pas recycler.
Et dont personne ne parle. C'est un problème. Il est en passe d'être résolu parce que ce sont des matières plastiques qu'on peut broyer, qu'on peut réutiliser, etc.
Qui en passe d'être résolu comment, quand? Il y a
une annonce du fabricant de machines Vestas il y a un mois à peu près, qu'il a trouvé une solution de recyclage qui permet de réutiliser ces matériaux-là dans d'autres usages. Donc c'est ce qui restait, c'est 97%.
Je pense qu'il faut être très clair. Quand vous parlez de 97% de la masse d'une éolienne,
Eh bien, vous parlez, vous additionnez les fondations, le fût. Mais les pales, c'est la partie la plus légère et la plus gênante.
Oui, mais ce sont des matériaux inertes.
Et pardon, ça, c'est très important. Pourquoi les pales ne sont pas recyclables?
Parce que c'est du plastique, c'est des plastiques, des polymères, des matériaux complexes.
C'est de la fibre de verre que l'on ne peut que brûler.
Voilà, mais ce sont des matériaux inertes. C'est-à-dire que même si on les stocke, c'est vrai que c'est pas souhaitable du tout d'un point de vue écologique, mais ça fait de mal à personne. C'est pas comme les déchets du nucléaire.
On peut les enfouir.
Il y en a pour des centaines de milliers d'années. Et on peut empoisonner la planète entière avec ça.
Allez, continuez à nous envoyer vos messages via l'application France Inter, les mails, les réseaux sociaux, les éoliennes au cœur de ce débat de midi aujourd'hui. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in that sun. Solar Power, c'était Lord sur France Inter et Valentine Chedebois pour la programmation.
Le débat du midi. Camille Cronier.
Et c'est pas le Solar Power dont on parle, mais des éoliennes aujourd'hui. Est-ce que ce n'est que du vent? Magnifique jeu de mots, n'est-ce pas, pour intituler cette émission. Et je suis toujours donc en compagnie de mes invités, Marion Richard, Marc Judliska, Grégoire Souchet et Bernadette Kars, avec beaucoup, beaucoup de messages des auditeurs. Marie-Colette, par exemple, qui nous écrit: il y a des implantations heureuses comme celle de Chamolles dans le Jura. Absolument. Où les citoyens ont pu participer au projet. Ainsi ont-ils acheté une éolienne qui est donc devenue citoyenne. Il n'y a eu aucune contestation, seulement de la satisfaction de participer à la nécessaire transition écologique. Ces projets valables doivent se faire avec une information juste et beaucoup de concertation. L'électricité fournie alimente des dizaines de milliers de personnes. Donc, les éoliennes peuvent être bien accueillies par la population, Marion Richard.
Mais tout à fait. Il y a en France plus de 40 projets éoliens dont les propriétaires, dont les copropriétaires sont des citoyens, des habitants, des collectivités. On a entendu Chamol dans le Jura, mais il y a aussi la Jacquerie, l'Irôme dans le Maine-et-Loire. Et il y a, et c'est très intéressant, aussi trois parcs éoliens autour de Redon, dont on a entendu parler récemment, dont les retombées économiques permettent en partie de financer sur le territoire des actions de réduction de la consommation d'énergie. Parce que quand les propriétaires, les copropriétaires de ces projets éoliens et de ces projets d'énergie renouvelable en général sont des citoyens, sont des collectivités, y compris aux côtés d'opérateurs privés, mais quand les citoyens et les collectivités ont la main sur les décisions, eh bien, ils prennent des décisions qui vont dans le sens du territoire, qui vont dans le sens aussi de la réduction des consommations d'énergie.
Alors, on a justement un message de Sabine sur Twitter qui nous dit la vraie question, c'est comment produire moins et pas mieux. C'est ça la question dont on parlait tout à l'heure, Grégoire Souchet.
Produire moins, et surtout consommer moins. L'un des enjeux effectivement du scénario mégawatt, c'est un triptyque, sobriété, efficacité, renouvelable. Le problème actuellement, c'est que l'argent est le soutien le plus massif et en fait le plus facile. Parce qu'en fait, c'est facile effectivement de soutenir un tarif d'achat pour aider à lancer une filière, de le diminuer progressivement et une fois que la filière est mature. C'est beaucoup plus difficile de rénover massivement tous les bâtiments publics. Et puis surtout, c'est pas les mêmes économies. Ça veut dire une puissance publique ancré sur son territoire, au niveau régional ou départemental. On sait que ces échelons-là, c'est pas forcément évident aujourd'hui pour avoir les compétences, notamment au niveau des départements. On sait qu'on n'a pas su planifier l'éolien en France. Donc ça s'est fait là où les promoteurs pouvaient s'installer, sur les 20% de territoire où on peut faire
des éoliennes. On a d'ailleurs des questions à ce sujet. Par exemple, Yvon qui nous demande pourquoi ne pas installer les éoliennes le long des autoroutes, pas de nuisances, marge de
difficulté. Ça se fait beaucoup. J'ai pris le TGV pour venir ici. Il y a plein d'éoliennes qui sont construites deux ans qui ont passé le long de l'axe Paris-Lyon.
En gros, les mettre là où c'est déjà moche, comme ça qu'on peut le dire.
On peut le dire comme ça. C'est un peu méchant pour les gens qui habitent dans le coin, mais oui, il faut le faire bien entendu. Mais faut être honnête, ça ne suffira pas. Il faudra aussi les mettre dans des endroits qui sont pas les autoroutes. D'avoir les autoroutes, il faudrait arrêter d'en fabriquer, parce que ça consomme énormément de béton pour polluer la planète. Donc le béton, vaut mieux mettre un petit peu dans les fondations d'éoliennes que beaucoup dans les autoroutes, enfin les autoroutières.
Il faut quand même du vent. Il faut quand même monter en altitude pour trouver le vent quand même.
Je rappelle quand même, on l'a pas dit, l'objectif du gouvernement français. Donc on le disait, à peu près 8000 éoliennes aujourd'hui dans 3380 parcs, 14500 éoliennes en 2028, c'est l'objectif pour passer la part à 35 gigawatts, c'est-à-dire 15% du mix énergétique. Et dans ces 14500 éoliennes, il y a des éoliennes terrestres évidemment et en mer également.
Oui, bien sûr.
Combien? Quelle proportion? Vous savez pas?
Ça va dépendre de comment justement on va pouvoir ou pas développer ces parcs offshore, parce que
chaque parc offshore fait l'objet d'un recours.
Et surtout
élus, des associations ou des pêcheurs. On est vraiment dans le quoi qu'il en coûte, comme vous l'avez dit. Et à la Fédération Environnement Durable, on n'arrête pas de le dire, c'est que il faut quand même écouter un petit peu la population, que ce soit les éoliennes de rivage ou les éoliennes sur terre, il y a une opposition permanente. Et qu'il soit citoyen ou qu'il soit classiquement industriel, finalement, l'éolien est porteur des mêmes nuisances. Et nous dénonçons et nous demandons à la Fédération Environnement Durable que soient prises en compte les populations. Par exemple, la distance de protection de 500 mètres entre les maisons et les machines, elle a été décidée quand les machines mesuraient 80 mètres de haut. Maintenant, nous sommes à 200 mètres de haut. Est-ce qu'il serait pas temps d'écouter un petit peu la population? Deuxième point que je tiens à souligner, et la FED se bat là-dessus, la Fédération Environnement Durable tient à ce que les éoliennes soient réintégrées dans le code de la santé publique. Parce que de par leur classement ICPE, les éoliennes
c'est
sont
quoi,
autorisées.
C'est quoi le classement ICPE?
Installation classée pour l'environnement. Les éoliennes ont obtenu un genre de dérogation, mais c'est de par la loi, elles peuvent faire plus de bruit qu'une autre installation.
Ça veut dire qu'elles sont soumises à des règles très strictes de protection de l'environnement.
C'est-à-dire
ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elles sont soumises à des règles
étatangères. Attendez, pas en même temps, s'il vous plaît. On va laisser Bernadette Kers finir.
Le code de la santé publique définit l'infraction à partir de 30 décibels. Le code ICPE définit l'infraction à partir de 35 décibels. 5 décibels de plus, c'est un triplement de l'émergence sonore. Et ça, on demande juste que les riverains, nous, à la campagne, on a le droit à la protection du code de la santé.
C'est mon cas, et moi, je ne subis pas ce...
Eh bien, moi, je le subis.
Les éoliennes modernes, comme c'est fait aujourd'hui, les populations sont protégées et même les exploitants peuvent modifier le fonctionnement et perdre des kilowattheures pour éviter une émergence sonore au cas où le vent est dans une certaine direction, etc.
Attendez,
c'est déjà aujourd'hui le cas.
On a aussi des messages qui déplorent en fait le côté trop clivant des éoliennes. Il y a des pour, il y a des contre, et ce débat n'est pas constructif, je viens de le lire à l'instant. Est-ce qu'on ne peut pas réussir à s'entendre? Est-ce que tous les quatre, vous n'allez pas réussir à vous entendre pour sortir quelque chose de constructif de ce débat, en particulier sur France Inter, et de toute façon de cet enjeu de produire de l'électricité et de l'énergie dont on a besoin, puisque la consommation ne baisse pas, d'une façon pour ne pas abîmer encore un peu plus la planète, si on le dit comme
ça. J'ai une proposition.
Alors dites-moi, et ensuite Grégoire Souchet.
Je m'adresse à vous qui êtes finalement intéressé financièrement à l'éolien. Est-ce que vous seriez d'accord pour augmenter la distance
c'est faux,
de protection
vous... Non mais c'est faux.
C'est une attaque ad hominem. Je suis absolument pas intéressé à la production éolienne. Excusez-moi, je peux pas laisser passer.
C'est pas très constructif. Moi, je demandais quelque chose de constructif. Est-ce qu'on peut réussir, Marion Richard, à sortir d'un débat d'une heure construit de façon constructive ou pas? Ou c'est impossible sur ce sujet?
Non, bien sûr, mais encore une fois, la question, c'est pas la technique, c'est la manière dont les projets sont réalisés. Et aujourd'hui, il importe d'informer le plus en amont les territoires, les citoyens. Et quand on le fait, quand les opérateurs le font, ça permet d'identifier aussi les citoyens, les habitants, les territoires qui veulent faire partie du projet. Et pour nous, ça c'est essentiel. Quand les citoyens, quand les habitants, quand les collectivités sont propriétaires, prennent les décisions sur le projet, mais tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Et on va trouver des solutions avec les agriculteurs qui s'inquiètent. Personne n'a envie de se disputer pendant les 20 prochaines années avec son voisin parce que le projet s'est mal passé. Donc, on a d'ailleurs des taux de recours sur les projets éoliens citoyens qui sont bien plus faibles que sur les projets classiques. Tout le monde
c'est
a
quoi
intérêt
les projets classiques
sur les projets qui sont menés par des opérateurs privés classiquement.
Les promoteurs classiques. Voilà. Grégoire Souchet.
En fait, le conflit, c'est pas une mauvaise chose. On a le droit de pas être d'accord, je pense. Et le sujet de l'éolien est très vif parce qu'il touche à l'intime, au paysage, à ce qui est près de chez soi. Et ça, c'est un truc que peut-être qu'on a négligé, en fait. On a oublié que l'énergie, c'est pas qu'une question de bilan carbone, de kilowattheure. C'est une question qui suscite des émotions parce qu'on bouleverse le modèle énergétique. Et ben, ça touche aux gens. Et ben, en France, on n'a pas su très bien faire nos politiques, on n'a pas su très bien gérer ça. Peut-être qu'aujourd'hui, et je pense que chez les Verts, par exemple, c'est quelque chose qui bouge, on prend en compte maintenant beaucoup mieux ces questions-là. On dit effectivement, on peut pas faire n'importe quoi comme énergie pour la transition énergétique. Les crises écologiques sont multiples. Il faut prendre en compte la biodiversité, l'énergie, les questions des pollutions, la question du bien-être aussi des gens. Et je pense qu'en alliant ça, on peut arriver à trouver des espaces où on peut faire de l'éolien accepté, en tout cas, et démocratiquement.
Allez, un petit espoir. Avant de nous quitter, on va terminer cette émission par le mini-débat. C'est une question liée au sujet du jour, mais bien plus anecdotique, là, vraiment, pour le coup, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est une battle entre...
Sous le vent...
Céline Dion, Garou, Sous le vent, ou Louise Attaque.
Je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des
Donc,
gens.
Donc, je vous demande à tous les quatre, vous votez pour qui, Céline Dion, Garou ou Louise Attaque, Bernadette Kars?
Là, vous me prenez un peu au dépourvu.
Bon, je vous laisse réfléchir. Grégoire Souchet.
Ah, Louise Attaque, originaire véronaise.
Évidemment.
Marguerite Giscard.
Évidemment.
Louise Attaque et Bernadette Kars.
Contre les éoliennes avec la Fédération Environnementale.
En tout cas, sur Twitter, c'est Je t'emmène au vent. C'est Louise Attaque qui gagne 55,2% des votes. Sous le vent, c'est Céline Dion Garou, 44,8%. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Bernadette Kars, donc pour la Fédération Environnement Durable. Marguerite Giscard pour l'association Négawatt. Marion Richard pour l'énergie, l'association Énergie Partagée, et Grégoire Souchet avec votre livre Les Mirages de l'éolien, paru au Seuil.